Cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte,
cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, je suis avec Jackie. On est dehors dans la pampa. Ça va Jackie, salut.
Bonjour, ça va, on est dehors, il fait beau, on est au mois d'août et on est au Bressal.
C'est ça, on profite de cette dernière sortie nature de l'Office de tourisme Cœur de Lozère en partenariat avec la LEP. Dernière sortie information nature biodiversité pour faire une petite émission thématique sur les serpents.
Voilà, les reptiles en général et les serpents en particulier. Avec voilà. Avec Charles Duterte, donc qui est l'animateur de la LEP. On a fait une balade là le long du Lot. On a eu le bonheur de voir des lézards bien sûr, mais aussi trois couleuvres vipérines dans la rivière, au fond de la rivière. On a pu bien les observer, une grosse et deux petites. Voilà. Avec un public, il y a une petite vingtaine de personnes.
Ouais,
là, qui est
familial, des enfants, des parents, des grands-parents.
Voilà, et donc des gens qui sont intéressés pour en savoir un petit peu plus sur les reptiles.
Voilà, parce qu'on connaît bien, quand on connaît bien son environnement, on le protège mieux, hein Jackie ?
Eh bien, bien sûr.
C'est ça l'idée toujours.
Alors, comme j'ai plusieurs casquettes, moi je suis aussi détenteur de reptiles.
Dresseur de serpents, Jackie.
Et donc, j'en fais reproduire à la maison des couleuvres américaines. Hein, comme on vous a déjà dit dans une précédente émission, les reptiles français sont protégés par la loi. Ce sont des animaux sauvages, on n'a pas le droit d'en détenir. Donc moi, ce sont des couleuvres américaines, parce que la législation américaine est différente. Hein,
on a le droit de piéger les américaines, mais pas les françaises.
Voilà, non, mais la législation est différente. Et en fait, depuis des années, aux États-Unis, il y a des amateurs qui élèvent des couleuvres. Alors là, j'ai ramené serpents des blés et serpents faux corail, qui sont donc des serpents du sud des États-Unis, des couleuvres absolument inoffensives, d'autant plus qu'elles ont l'habitude d'être manipulées, puisqu'il m'arrive fréquemment de faire des animations dans les écoles, dans les maisons de retraite, etc.
Vous voyez, il a quand même des drôles de hobbies, Jackie, hein, finalement.
finalement, c'est peut-être pas celui qu'on croyait.
Charmeur de serpents.
Voilà, donc on est, je vais pas tarder là à démarrer ma démonstration. En fait, avec ces couleuvres, pour apprendre un petit peu aux gens, comment ça se fait qu'un serpent il tire la langue souvent, comment ça se fait que cette langue est bifide, comment il va faire pour trouver à manger, comment il va tuer ses proies. Et puis, on va aussi parler de la reproduction, comment ça se passe chez les serpents, avec un phénomène très étonnant, c'est que le mâle serpent a deux pénis. Et donc, ce qu'on appelle deux hémipénis, il a un pénis de chaque côté, parce qu'en fait, comme ce sont des animaux qui n'ont pas de pattes, eh bien, il va se servir alternativement ou de l'un ou de l'autre, selon de quel côté il se retrouve par rapport à la femelle.
Trop pratique.
Voilà. Et alors, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est peut-être pour ça que beaucoup d'hommes, en fait, sont jaloux et ont tué des serpents dans leur vie, quoi.
Ouais, parce que ils en ont qu'un pénis.
Voilà.
En général, hein, c'est ça.
Hein, en général, c'est ça. Les mieux dotés en ont un.
C'est ce qui me semblait, voilà. Voilà. Bon, ben alors, pendant que tu vas aller un peu raconter tout ce que tu connais sur les serpents. À ce groupe de personnes très intéressées. Moi, je vais essayer d'attraper Charles Duterte et puis voilà, qu'il nous raconte un petit peu ce qu'il sait, lui, à la radio. Ça serait sympa, hein.
Voilà. Et puis, ça serait sympa. Et le but, c'est que quand même, les personnes qui n'ont pas pu assister à ce genre d'animation puissent avoir envie, déjà savoir que ça se passe, savoir comment ça se passe et avoir envie d'en connaître un petit peu plus sur les reptiles. On les craint parce qu'on ne les connaît pas.
Hein. Et oui, c'est ça.
Voilà.
Donc, de l'information. Ah, je crois que c'est ton
alors,
tour là, Jackie.
On y va.
On y va et hop, déplaçons-nous. Moi, je vais aller voir Charles. Alors maintenant, on va passer un petit peu la parole à Charles Duterte, qui est animateur donc à l'ALEP. Mais on va te laisser te présenter, Charles. Raconte-nous un petit peu, qui es-tu ?
Eh ben voilà, Charles Duterte. Du coup, je travaille à l'ALEP. Je suis salarié sur les fonctions d'animateur, d'éducateur à l'environnement. Voilà pour le pourquoi de ma venue aujourd'hui avec l'Office de tourisme de Mende.
Un peu d'éducation à l'environnement. Et donc là, il s'agit de parler aux gens des reptiles.
Ouais, des reptiles avec un point peut-être un peu plus prononcé sur les serpents en particulier. Voilà, c'est un sujet qui cristallise beaucoup de choses,
de peur.
Il y a beaucoup de légendes autour de tout ça. Ouais. L'idée, c'est de proposer une petite sensibilisation au public qui répond souvent en nombre d'ailleurs sur ces sujets-là. Parce
ouais,
que,
une bonne vingtaine de personnes. Là,
voilà, on a rempli la capacité qu'on a sur ces sorties-là, donc c'est super. Et voilà, vu que ça cristallise énormément, il y a beaucoup de peur, mais du coup, les gens sont quand même curieux et souhaitent en savoir un petit peu plus.
C'est pas un animal qu'on connaît beaucoup quand même, le serpent, c'est sûr.
Non, on les connaît pas forcément beaucoup. Pourtant,
ouais.
Ils sont autour de nous.
Oui.
Ils se cachent. Là, on a prospecté peut-être quelque chose comme une heure. Les berges du Lot, on a quand même eu la chance d'en voir trois. Donc, quand on se donne les moyens,
on
peut les rencontrer. Il faut ouvrir un œil. Comprendre un petit peu comment ils fonctionnent aussi pour savoir où les trouver et puis ça marche des fois.
Ben, ça marche, moi j'ai pu voir comme ça une couleuvre vipérine là au fond du Lot. C'est pour ça qu'on est au bord du Lot, parce qu'il y en a beaucoup dans le coin.
Exactement.
Pourquoi il y en a beaucoup dans le coin ?
La couleuvre vipérine, c'est une couleuvre qui est relativement aquatique, qui se nourrit beaucoup sous l'eau.
Elle
mange tous les petits poissons qu'on voit, des petits verrons, des goujons, ça peut aller jusqu'à la truite, au chevesne.
Carrément.
Oui, c'est possible.
Parce qu'elle est petite, la couleuvre, quand même, comparée à la grosse truite.
On a vu des petites, hein, mais elle peut aller jusqu'à peut-être 80 cm, sans exagérer.
D'accord.
Voilà. Mais on vient sur son territoire, donc c'est plus facile de la trouver là où elle vit.
C'est sûr.
Voilà.
Ok, et donc pas mal de couleuvres vipérines ici, le long du Lot à Mende, mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme serpent dans le coin ?
Sur le département de la Lozère, on compte 10 espèces de couleuvres différentes.
Ah, quand même.
Réparties différemment, puisqu'il y en a qui sont plus sudistes, d'autres qui sont plus montagnardes.
Et puis on a. C'est ça qui est le plus en Lozère.
En nombre d'espèces, oui.
D'accord.
Sans aucun doute. Et puis on a deux espèces de vipères.
Espèces de vipères. Alors c'est quoi les deux espèces de vipères?
La vipère péliade, qui est plus. Ouais. Plus, on va dire, sur les zones d'altitude en général, et la vipère aspic.
L'aspic.
Voilà,
d'accord.
Qui est bien connue.
Ouais, qu'on connaît mieux. Et les couleuvres, bon, tu vas peut-être pas lister les 10, mais les plus connues, c'est quoi ?
Je dirais que celle qu'on fréquente les plus, c'est peut-être la couleuvre verte et jaune. La couleuvre vipérine qu'on vient d'observer, toute personne qui s'est baignée dans les rivières lozériennes ou ailleurs en a croisé. En appelant ça souvent banalement un serpent d'eau.
Voilà, un serpent tout court.
Ouais, voilà. Mais absolument pas dangereux, soit dit en passant. Mais
c'est pas très agréable de la croiser quand même quand on nage.
C'est pas agréable parce qu'on la connaît pas.
Ben oui, c'est ça.
Mais en fait, faire une petite plongée pour en observant avec un masque ou un tuba et regarder un serpent évoluer dans son milieu, ça peut être hyper agréable.
Ah, ça peut être chouette.
Mais quand on sait le qualifier, et voilà, c'est ça.
Et
en fait, c'est aussi le but de ces sorties, c'est que quand on apprend à vraiment connaître ces animaux, on en a moins peur, on passe plus de temps à les observer.
Ouais.
Et bah, même pour moi qui, jeune, n'était pas très à l'aise avec ces animaux, à apprendre un peu de leur vie, finalement, je les apprécie vraiment, quoi.
Bien. Bon, et comment ils réagissent, les gens là? Comment ça s'est passé, là, la petite balade? Tu as eu des questions surprenantes, un peu?
Non, pas tellement, cette fois-ci. Alors après, c'est vrai que des fois, je propose des thèmes. Justement, je propose des fois des activités sur les légendes qui entourent les serpents.
Ah.
Voilà, que vous avez peut-être déjà tous entendu, sur la couleuvre qui tête au pied de la vache.
Oui, c'est là. Ouais, la vipère aussi, j'ai entendu.
Pourquoi pas ?
Le serpent qui va boire du lait au pied de la vache.
Voilà.
Effectivement, celle-là, elle nous revient régulièrement quand même. Alors donc, légende ? Légende rurale ?
Légende, ouais. Faut savoir que les serpents, ils ont la capacité de gober leur proie, mais ils n'ont pas la capacité de mâcher leur proie.
Ni de téter.
Et du coup, s'ils voulaient téter, ils seraient bien embêtés pour avoir une mastication suffisante pour arriver à faire jaillir le lait.
Et d'où ça vient, ça, on le sait ou pas?
Alors, il y a, d'après mes quelques petites recherches là sur le sujet, les serpents appréciaient les étables par rapport à la chaleur des bovins qui étaient dans les étables, et du coup ils se trouvaient régulièrement dans la paille,
au milieu des vaches. Ah oui, j'imagine.
Au milieu des vaches.
Serpent blotti contre l'épi.
Voilà, ou une litière suffisamment épaisse, ça rapporte un petit peu de chaleur et elle s'y trouve très bien en fait.
Ouais, c'est ça.
Et de fil en aiguille, alors est-ce qu'il y a eu un jour dans l'histoire une morsure à une vache qui aurait fait un geste brusque sur un serpent et que ça a dérivé, ou est-ce que tout simplement le téléphone arabe ou je ne sais quoi qui a fait son travail, mais. Il y a quand même peu de probabilité pour que ça se vérifie un jour.
Ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est une légende dont j'avais entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Alors, soit comme légende, soit comme idée reçue un peu tenace sur les serpents.
Les lâchers de vipères.
Ah ouais, c'est vrai. Par hélicoptère ou dans les camions.
Par
hélicoptère,
oui, tout à fait. Les caisses larguées par hélicoptère.
Voilà, donc on larguerait des caisses de vipères. Alors, c'est pourquoi déjà, ça?
Bah, pour la réintroduction de l'espèce.
Ah oui, voilà.
Voilà, tout simplement. Ça paraît très évident, dit comme ça. J'imagine bien un serpent chuté dans une caisse, arrivé au sol. C'est un vertébré, hein, donc il a une colonne vertébrale comme la nôtre.
Ouais,
il y a quand même des chances que ça se passe pas très bien à l'atterrissage, quoi. Mais bon, voilà, ça fait partie des légendes rurales, en effet, qu'on peut entendre de partout en France. Et tout le monde connaît l'homme qui a vu l'ours.
Ouais.
Et voilà, on en arrive à des choses totalement absurdes.
Donc le serpent, voilà, c'est un animal qui a toujours fait un petit peu peur. Alors du coup, il alimente un petit peu les histoires et les imaginations. Hein.
Oui, oui, dans certains coins de la planète, il est vénéré. Chez nous, ce n'est pas trop le cas.
Non, chez nous, c'est pas ça. Et sinon, à part les serpents, donc, tu proposes d'autres sorties. Là, tu as proposé d'autres sorties dans l'été aux touristes et aux gens qui étaient en vacances un peu?
Ouais, j'ai animé pas mal de thèmes pendant l'été. Donc toujours en lien avec le côté naturaliste, hein, mais ça, voilà, dans les thèmes qui ont bien fonctionné, où j'ai eu pas mal de monde, c'était la biodiversité nocturne, c'était des sorties sur les oiseaux, des sorties sur les mares, les amphibiens, voilà, les tracés indices d'animaux. Il y a eu plein de sujets balayés durant tout l'été, yeah, dans différents cadres.
Bon, bah ça c'est sympa.
Mmh.
Et les gens sont attentifs.
Bah les gens. Sont volontaires.
Ah oui, ça, on les oblige pas.
Quand on leur propose quelque chose, ils sont disponibles. Il y en a même qui ont bravé la pluie, des fois, dans des conditions pas super sympas, mais on a passé de super moments.
Ah, bah,
c'est vraiment chouette. Des bonnes expériences. On est sûr de se retrouver tranquille dans la nature, y a, même sur des espaces qui sont très fréquentés.
Bon, bah, c'est chouette. Et en dehors de l'été, les sorties avec les offices de tourisme, tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées aux locaux en matière de découverte de la faune, de la flore, je sais pas, de la biodiversité, tout
ouais.
Ça.
Dans les thèmes qui sont destinés plutôt à un public local, on travaille notamment sur des ateliers lors des atlas de biodiversité communale.
Ah oui.
Que certaines communes ont mis en place.
Les habitants sont invités à participer, en fait, à chaque fois.
Voilà, c'est ouais. Ça. Ils sont invités à participer. Alors, il y a des opérations de sensibilisation, mais il y a aussi des opérations d'inventaire collectif. Voilà, il y a plein de possibilités. Après, ça dépend de nous, ce qu'on peut proposer, et des autres prestataires, hein, parce qu'il y en a plein qui peuvent bosser sur ces sujets-là.
Voilà, c'est ça. Plein de gens qui ont lien... Avec la nature, il y a l'ONF, je sais, qui intervient.
Ouais, possiblement, voilà.
Voilà. Toutes ces structures-là qui travaillent à faire partager l'information. On va voir Jackie un peu avec ses serpents.
Eh oui.
Allez, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, Jackie, il a fait un nœud avec un serpent autour de quelqu'un.
Voilà. Comme ça, c'est bien. Vers le haut, voilà. Hop.
Jacques présente le serpent, l'enfant prend le serpent.
Voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses?
Ça c'est sans moi quand même. Hein.
C'est doux, hein?
Le tien? Je vais essayer de prendre une photo.
Et le regard de l'enfant.
Regarde ton papa.
Alors ça fait quoi de tenir un serpent?
C'est doux.
C'est doux. Et c'est chaud ou c'est froid?
Là c'est tiède.
C'est bon, Néné?
le temps dans la boîte, on était au chaud.
C'est froid.
Ils étaient un petit, voilà, ils étaient un petit peu au chaud, ils sont tièdes donc.
Ah, voilà, donc. Madame.
C'est une dame serpent, une serpente.
Une maman serpent même. Parce
une maman serpent, petits. D'accord.
Oui, oui. On va en parler de la reproduction justement aussi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant.
C'est quelle espèce ça, Jackie?
Serpent des blés.
Serpent des blés. Ah, c'est le mien celui-là.
American.
Dessous, on dirait des touches de piano, me dit une dame. Ah oui, c'est vrai, ça y est, je viens d'apercevoir. Ah oui. Ouais, c'est un clavier ce serpent. En fait, Jackie nous fait croire qu'il nous promène des serpents, mais ce sont juste des claviers souples. Vous l'avez touché, madame, le serpent?
Ah non, ça risque de... Non, je ne peux pas. J'aime bien regarder, hein, par curiosité, mais ne comptez pas sur moi.
Moi, c'est pareil, je regarde. Mais il est long, quand même, ce serpent. Hein. Je ne sais pas combien il mesure, mais il fait au moins 1,20 m. Il est beau, ouais. Donc, tous les serpents de Jackie, il explique aux gens, viennent exclusivement d'élevage. On ne capture pas de serpents dans la nature, c'est parfaitement interdit, même si c'est pour s'en occuper. Eh bien, s'en occuper. Une souris tous les 8 jours pour le serpent. Ça, c'est l'alimentation des serpents de Jackie. Même que je touche un petit peu. Hein. Attention, parce que j'ai peur. Bouge pas trop, parce que... Ah, c'est un enfant qui me dit de ne pas m'inquiéter. Ça fait plaisir. Ah, eh bien oui, hein. Je lui fais des câlins au serpent, tout doucement. Voilà, mais je te le laisse quand même porter. Hein. Tu veux nous dire quelque chose à la radio sur le serpent que tu as dans les mains?
Moi, je m'appelle Martin. Et ce serpent, c'est un serpent que j'ai l'habitude de manipuler parce que Jackie, c'est mon grand-père. Du coup, j'ai assez l'habitude et ça va. Ça fait pas trop peur, quoi.
Comment il s'appelle, ce serpent?
Il n'a pas de nom. Ah non, celui-là, le nom scientifique, le serpent des blés. Le serpent des blés, ça.
C'est un serpent des blés et il y avait une dame qui disait qu'il y avait comme un clavier dessous, c'est noir et blanc dessous effectivement, et puis après les couleurs c'est un peu roux, un peu marron clair, voilà. Voilà, Martin, t'as fait un nœud là quand même, hop, ah ouais, mais loin de moi le serpent quand même. C'est, heureusement que j'ai un micro avec un fil, ça me permet de m'approcher de Martin et du serpent, pas trop non plus. Et t'aimes bien alors, toi, t'amuser avec les serpents, Martin?
Oui, j'aime bien. C'est doux comme animal. C'est calme, on va dire. C'est très... Genre un serpent, c'est beaucoup plus calme qu'un chat, par exemple. Ces couleuvres-là sont beaucoup plus calmes qu'un chat ou qu'un chien. Si vous voulez un animal qui est assez calme, pas trop excité, il faut prendre un... Et que vous aimez les reptiles, il faut...
Il faut prendre un serpent, c'est l'animal le plus zen du monde en fait. Mais il s'approche de moi là, si tu pouvais faire quelque chose. Les couleuvres des blés, super. Ça y est, il y a une petite fille qui a un collier en forme de serpent albinos. Jackie, c'est quoi celui-là de serpent?
Alors celui-là, c'est un serpent des blés aussi, c'est un mâle serpent des blés qui est albinos. Voilà, et puis qui est en train tranquillement de faire un très joli collier à la petite fille. Alors, je vais t'aider.
J'essaye de l'enlever comme un collier d'ailleurs. Attends, je reprends le micro, il faut libérer la petite. Ça fait un nœud. Ça t'a fait rire, hein? Il était un peu coquin ce serpent.
Parler de la reproduction des serpents. Alors, je vais reprendre une pour montrer.
Hop. Alors, Jackie va nous expliquer, serpent à la main, la reproduction.
Les serpents, en fait, ils ont un endroit comme les oiseaux où ils vont faire leurs besoins, hein, urine, crotte et sexe, tout se passe à cet endroit. Si, comme pour les poules, par exemple, est-ce que vous savez, je l'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un l'a dit, comment ça s'appelle ce trou-là? Le cloaque, d'accord? Il faut savoir qu'on n'est pas loin d'être dans une branche semblable. Au niveau des espèces, hein, à partir des dinosaures, il faut savoir que la mue des serpents, la peau des serpents, comme l'écaille, est de la même matière que les plumes. Ok ? Et donc, au départ, c'était une même branche, les oiseaux et les serpents. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve un cloaque comme ça. Alors, on se demande toujours... Mais comment on peut savoir si c'est un mâle ou une femelle?
Eh oui.
Parce qu'en fait, à part certaines espèces, spécifique. Comme par exemple l'anaconda, où quand on trouve un anaconda de 12-14 mètres de long, c'est obligatoirement une femelle. Les mâles sont plus petits, hein, excèdent rarement 6 mètres. Mais par contre, sur les serpents des blés comme on a ici, il n'y a pas de différence morphologique apparente. Donc, à l'intérieur, le serpent mâle a deux hémipénis. Ça doit être pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont tué beaucoup de serpents. Je pense que c'est la jalousie qui les anime. Tout simplement parce que deux hémipénis, parce que ce sont des animaux qui n'ont pas de pattes pour se caler quand il y a copulation. Et donc, en fait, ils sortent alternativement ou l'hémipénis gauche ou l'hémipénis droit, selon que la femelle est à gauche ou à droite. Voilà.
Genre, il peut pas se déplacer de l'autre côté, sinon.
Ben, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, c'est trop compliqué. Déjà, c'est pas facile. Imagine avec la taille, entre la tête, ils sont pas tous de la même longueur, etc. Quand il y est, c'est déjà pas mal. Donc, comment est-ce qu'on va savoir? Eh ben, en fait, on va enfoncer une sonde à partir du cloaque. On va enfoncer une sonde vers la queue. Les sondes, c'est comme ça. Voilà, il y a des petites sondes. Oui, aussi gros que ça. Mais quand on a des très gros serpents, ça peut même aller jusqu'à assez gros comme ça. Hein. Ah non, on ne peut pas les abîmer parce que c'est rond, parce qu'on ne fait pas ça comme des bœufs non plus. Et donc voilà, on va sonder. Si ça rentre environ d'un centimètre, un centimètre et demi, ben, c'est qu'on est dans une poche des hémipénis, donc c'est que c'est un mâle. Si c'est une femelle, ça va rentrer de l'ordre de 2 à 3 millimètres, et c'est tout. Et donc, comme ça, on saura si c'est un mâle ou une femelle.
Mais c'est pas le seul moyen, quand même.
Ah ben, pour les serpents, là, en l'occurrence, c'est le seul moyen.
Il n'y a pas la robe ou
Non, la robe n'intervient absolument pas.
Elle met d'oreille les femelles serpents pour nous aider, non.
Non. Là, il faut... Ces hémipénis, ils ne les sortent qu'au moment de la copulation. Donc, voilà. Alors, on pourrait peut-être, en forçant dessus, lui faire sortir. Je pense que ce serait plus barbare que de lui mettre... Vous savez, moi, quand ils sont tout petits, je prends un crin de pêche qui est brûlé au bout pour que ce soit bien rond. Et puis, je fais ça avec un crin de pêche et ils manifestent pas d'opposition. Hein. C'est pas... Voilà. Alors, donc, mâle et femelle se retrouvent au printemps, après une période d'hibernation. Ça, c'est important à savoir, hein. Les serpents d'ici, ils hibernent. Et moi, les miens aussi, je les fais hiberner. Donc, ils vont se retrouver pendant 6 mois de l'année à 12 degrés à peu près. Alors ici, comment ça se passe? Ils prennent des vieux terriers de campagnols, de lapins, de renards. Ils vont essayer de trouver un endroit suffisamment profond dans le sol, hein, si possible pas loin de 2 mètres, parce que dans le sol à 2 mètres de profondeur, en fait, il faut savoir qu'hiver comme été, on a 12-13 degrés à peu près. Et donc là, ils vont complètement hiberner, c'est-à-dire qu'ils ne vont... Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai vérifié. Ils vont même pas changer de poids. C'est une hibernation totale comme ça, alors que bon, bah, beaucoup de bestioles, quand ils hibernent, ils vont prendre du poids avant pour pouvoir avoir des réserves pendant l'hiver. Eux, comme il y a une température égale comme ça, ils perdent pas de poids. Et donc... La femelle va donc faire une vingtaine d'œufs, hein, une femelle comme ça, 20-25 œufs. Et donc, la couleuvre va essayer de trouver un endroit pour, en fait, pouvoir que ses œufs se couvent tout seuls. Donc, un compost, où il va y avoir une chaleur, hein, d'environ 30 degrés, un tas de fumier, où la décomposition fait aussi qu'il y a de la chaleur. Et au bout de 2 mois, les couleuvreaux vont sortir. C'est-à-dire que la femelle ne saura pas qu'elle a des petits, les petits ne sauront pas qu'ils ont des parents. Hein, il faut, on n'est pas dans le, chez les bisounours, là, chacun se débrouille.
D'accord.
Et donc la grande difficulté, comme je disais tout à l'heure en aparté, c'est pour des petits couleuvreaux comme ça, au bout d'une semaine, ils vont faire une mue, la première mue. Avant la première mue, ils ne mangent pas. Et donc c'est ce qu'on appelle le temps de dispersion, c'est 8 jours. pour qu'en fait chacun s'en aille de son côté et qu'il risque pas de s'embêter, voire de se manger les uns les autres. Après ce temps de dispersion, il va falloir qu'il trouve un endroit où il y a des souris, un endroit où il y a des petites souris, et surtout un endroit où les bébés souris sont suffisamment petits pour pouvoir les avaler, donc quasiment naissants. Et c'est pour ça que ça pond 20-25 œufs, c'est pour espérer d'avoir un adulte qui puisse s'en sortir. Hein. C'est toujours un rapport comme ça. Mais chez les poissons, c'est pire. Hein. Ils pondent des dizaines de milliers d'œufs voilà. Là, c'est difficile. Et je vous parle pas des prédations avec les voitures. On en parlait tout à l'heure. Il faut savoir que c'est pas toujours accidentel les serpents écrasés. C'est comme les hérissons. Hein.
On peut les éviter, c'est bien, hein.
Moi, je pense que j'ai jamais écrasé un hérisson. Je suis toujours sidéré d'en voir autant d'écrasés sur la route.
Ouais.
Les crapauds, les reptiles. Je pense qu'il y a aussi des gens qui prennent un malin plaisir à le faire. J'espère qu'il y en a pas parmi nous, ou que s'il y en avait, ils auront changé d'avis avec cette présentation.
C'est surtout voilà. Ça. Alors, une dame demande si, pendant les périodes d'hibernation, le serpent...
Alors, il pourrait bouger au cas où il y a un problème, mais normalement, il reste vraiment très, très tranquille. Ils se mettent les uns contre les autres, ce qui a fait dire à un moment les nœuds de vipère, comme
ah,
ça.
Oui.
Hein, parce qu'un serpent tout seul, tout à l'heure, je vous disais... Un nœud, il le défait sans aucun problème. Par contre, c'est arrivé qu'on retrouve deux vipères mortes nouées l'une à l'autre. Parce que chacune va avoir essayé de défaire le nœud, mais en fait, leurs mouvements se contrariaient.
Hein.
Ouais, c'est pas... c'est arrivé déjà.
D'accord.
Des nœuds de vipères, on appelle ça. Hein, parce que, justement, les endroits pour hiberner sont pas aussi fréquents. Donc, dans une zone donnée, ils peuvent se retrouver à plusieurs dizaines d'individus. Et à ce moment-là, ils vont se blottir les uns contre les autres. Quoi, hein. Il faut savoir... moi, quand j'en ai plusieurs dans un vivarium comme ça, j'ai des pots, genre pots à fleurs, comme ça, c'est des gîtes pour eux, ils vont dedans, mais quand il y a trois ou quatre bestioles dans un même vivarium, j'ai beau mettre deux ou trois pots, ils vont être tous ensemble. À l'un à l'autre, c'est la reproduction, ça. Souvent, c'est les vipères, les couleuvres vertes et jaunes, par exemple, qui montraient tout à l'heure, qui sont des grandes couleuvres comme ça. Au moment de la copulation, c'est une parade. Le mâle va entourer la femelle comme ça. Ils vont se dresser assez haut comme ça. Il faut savoir que là, les moments de copulation comme ça, c'est très compliqué pour les serpents parce que ils n'ont plus de peur. Toute leur attention est à la reproduction. Et donc, il faut mieux... ils n'ont pas la peur de l'homme. Et si vous voulez, donc ça veut dire que ben là, on pourrait les abîmer, leur faire mal. Et eux, si on est sur leur au milieu de leur évolution, ils risquent de nous mordre parce qu'ils sont mais comme des bestioles en rut. Hein, il n'y a pas d'autre terme. Hein, donc voilà, il faut... C'est au printemps, ça. C'est pour ça qu'on dit au printemps, faut faire attention avec les vipères comme ça, parce qu'en fait, la vipère qui normalement nous fuit en période de reproduction, elle nous ignore, mais on peut être sur son passage. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un peu plus dangereux à ce moment-là. Mais il faut être vigilant et pas les embêter dans une période où vraiment ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Les serpents des blés ont toujours ces touches de piano un petit peu en dessous, sauf alors ceux qui sont tachés comme ça, ceux qui sont lignés, ils ont un ventre tout blanc. Alors donc on peut pas différencier vraiment. C'est pas une empreinte parce que c'est toujours la même chose. Hein. On a deux écailles qui sont à moitié noires et blanches, une écaille blanche, deux écailles,
donc
voilà. Oui, à peu près. Mais il y en a là des différentes. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est comme avec les queues des baleines, si on peut les différencier comme ça. Mais quand on en a l'habitude, moi, je les reconnais hein, entre les unes et les autres. Il y a des petites variations, souvent sur le dessin de la tête. Et puis au niveau de la bestiole, oui, ben, c'est comme toutes les bestioles, vous savez, un chien, si vous avez un chien d'une race, même si quelqu'un d'autre a le même chien, vous allez savoir lequel est le vôtre, quoi. Donc voilà, les serpents, je les reconnais comme ça, hein. Et quand ils sont tachés comme ça, ben, c'est toujours des serpents des blés. Celui-là, nouveau serpent, celui-là, c'est un serpent faux corail.
Il est super vif, hein.
Alors, le serpent faux corail, en fait, il a un cousin proche qui est le serpent corail. C'est toujours sud des États-Unis. Et en fait, c'est le serpent corail a cette même couleur, hein, orange-rouge. Et il a un anneau noir entre deux taches blanches. Et le faux corail, un anneau blanc entre deux taches noires. Ce qui fait que quand on le regarde rapidement, voilà, c'est une manière pour lui de d'être un peu plus tranquille pour que des prédateurs puissent le prendre pour un serpent dangereux, un serpent corail. Hein, il faut savoir que le corail, il est mortel pour l'homme. Donc je m'amuserai pas, voilà. Il a une particularité par rapport au serpent des blés, c'est qu'il est ophiophage. Ophiophage, ça veut dire qu'il peut manger d'autres serpents. D'accord ? Il y a d'autres serpents qui peuvent être à son menu. Si je lui mets dans un vivarium des petits des serpents des blés, il va le manger. Hein, ça le dérange pas du tout. Alors que le serpent des blés, lui, ne connaissant pas, il va même pas se défendre. Il va être très étonné par la chose. Alors. Juste une petite chose aussi sur celui-là, qui paraît un peu flué comme ça, mais qui est très dangereux pour ses congénères. Sud des États-Unis, je vous disais, bah, c'est là où il y a le crotal aussi, hein, le serpent à sonnette, qui lui
c'est
aussi.
C'est le livre de la jungle, celui-là, Jackie.
Voilà, c'est celui du livre de la jungle.
On en a parlé tout à l'heure.
Et non, c'est pas celui du livre de la jungle, c'est un boa.
Livre
de la jungle.
Merci,
voilà, c'est un boa, donc contrictor, et non pas, et il n'a pas de venin. Le serpent à sonnette a du venin, donc ils vont se retrouver face à face. Mmh. Ils vont se dresser l'un en face de l'autre, et ils vont commencer à se défier. Et au bout d'un moment, et ben ils vont se jeter l'un sur l'autre. Et c'est celui-là qui gagne. Simplement parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et en fait, il aura pris la tête du serpent à sonnette, déjà. Et à partir du moment où il a pris la tête, bah, il va l'avaler avant que l'autre ait pu l'ouvrir et le piquer.
C'est vrai qu'on a vu
qu'il était
très
rapide. Et donc, il va avaler tout avec le venin, et il va tout digérer sans aucun problème. C'est aussi plus gros, mais il n'empêche qu'il va ouvrir très grand. Et il suffit qu'il le prenne au bout. Hein. Et ensuite, il va, comme je vous disais, il va y mettre le temps, mais il va l'avaler. Voilà, le serpent corail maintenant est dans les mains.
Mais il est assorti à votre haut, madame. C'est parfait. C'est pour ça que vous vouliez celui-là. Vous êtes coquette.
Et celui-là est beaucoup plus vif, hein, le serpent corail.
Oui.
Il est beaucoup plus vif. C'est une couleuvre. Oui, oui, oui. Le faux corail, c'est une couleuvre.
Il va gagner sur le
crotal. Il va gagner sur le crotal, oui. Oui, oui. Par sa rapidité. Alors j'aime bien dire ça aux enfants parce que c'est pas celui qui est le plus armé obligatoirement qui va gagner. Et ça c'est quand même chouette.
Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir une habilitation là ?
Alors,
qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir une habilitation pour avoir des serpents ?
Alors en fait, quand on a un ou deux serpents des blés, on n'a pas besoin de certificat de capacité. Mais moi, j'en ai une vingtaine. Donc, j'ai passé ce qu'on appelle un certificat de capacité. Il faut montrer au niveau de la DDT et donc des services vétérinaires départementaux, prouver qu'on s'y connaît, avoir fait visiter l'installation où ils sont, avoir une déclaration du maire comme quoi on n'est pas farfelu, avoir un stage d'au moins 70 heures dans un établissement. Donc ici, je vous conseille, si vous connaissez pas, sur le Larzac, il y a le reptilarium du Larzac, qui est un endroit super à voir. C'est là-bas que j'ai fait mon stage, moi, et vraiment avec quelqu'un qui est très, très compétent. Et c'est vraiment un très bel endroit où les animaux sont bien. Voilà, donc il faut tout ça, et ensuite on passe, quand on a rempli toutes ces conditions, on passe devant une commission à la préfecture pour avoir ce certificat de capacité. Donc, mais c'est bien qu'il y ait ce genre de choses, parce que quand on a des animaux, ça doit passer en premier, quoi. Et il y a trop de gens, moi je vois avec certains chiens ou autres, qui ont ça parce que c'est la mode, et en fait, il faut protéger aussi ces animaux-là par l'histoire d'avoir des certificats de capacité et d'être vraiment... Ah ben il faut...
Oui, il faut savoir s'en occuper, bien sûr.
Voilà, voilà. Il faut être tout à fait responsable des bestioles qu'on a. Hein. Après, quand on a un certificat de capacité, c'est sur certaines espèces. Et si on veut agrandir son nombre d'espèces, il faudra repasser une autre capacité. Et puis, ils sont pas obligatoirement... Quoique de plus en plus maintenant, hein, il y a des stages pour les pompiers avec des gens qui ont des serpents. Parce que c'est si c'est un piton qui fait 3 mètres, c'est pas obligatoirement facile. Et donc, pour les pompiers, c'est souvent... Mais alors après, ils peuvent aussi demander. Moi, ils ont mon numéro de téléphone au cas où il y a un truc comme ça pour que je puisse venir pour les soutenir, quoi. Savoir ce que c'est, identifier les espèces.
Et comment faire, ouais.
Et comment faire. Mm. Mais bon, vous voyez, normalement, avec les serpents, hein, c'est bien d'avoir un crochet comme ça. Hein.
Voilà, je laisse Jackie sur cette animation au bord du Lot avec tous ces gens fort intéressés par tout ce qu'il raconte, avec Charles Duterte, l'animateur également de la LEP. Donc c'était un moment fort sympathique, familial, où une bonne vingtaine de personnes a pu apprendre plein de choses sur les serpents, manipuler des serpents, en voir dans le Lot, dans la nature. Donc vraiment une demi-journée d'informations très intéressantes sur les reptiles qui nous ont fait là, Charles et Jackie. Donc on les remercie tous les deux. Et puis j'en profite pour vous indiquer que dorénavant, sur nos émissions avec Jackie, on va essayer de sortir à chaque fois. Puisque vous avez vu que pendant plus de 2 ans, on a enregistré des émissions uniquement sur le jardin. Mais cultivons notre jardin, c'est bien sûr au sens large. Et là, l'idée, ce serait maintenant d'essayer de vous faire sortir le plus possible avec nous, de vous emmener chaque fois qu'on fait des sorties nature, des balades, pour vous transmettre un maximum d'informations sur votre environnement, sur la biodiversité locale, etc., etc. Donc, je vous dis au revoir de la part de Jackie et Charles, qui sont fort occupés avec le groupe de personnes. Et puis, on vous dit à très bientôt sur 48 FM, la radio sans OGM. Au revoir.